OK, on commence notre 63e leçon de notre série sur l'histoire de l'Église. On va regarder encore ce soir le 19e siècle, la fondation de 4 contrefaçons du christianisme. On en a vu 2 jusqu'ici. On a vu les Adventistes du 7e jour et les Témoins de Jéhovah. On va voir ce soir les Mormons ou l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Et après, il va nous en rester une à regarder. Ça va être la science chrétienne de Mary Baker Eddy. Alors, on va étudier brièvement comment ils ont été fondés, quelles sont leurs principales croyances, une idée de leur importance et de leur influence, ainsi que la dénonciation et la réfutation de leurs principaux faux enseignements. On l'avait déjà mentionné, le malin est le singe de Dieu, il est le maître de la contrefaçon. Alors aujourd'hui, on va regarder l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours ou les Mormons. Alors, l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours, appelée aussi mormonisme, est une Église se définissant comme chrétienne, restaurationniste. Qu'est-ce qu'on veut dire par restaurationniste? C'est tout simplement qu'ils croient que tout ce qui avait été fait avant eux n'est pas bon. C'est eux qui restaurent la bonne religion. Alors, c'est né dans l'État de New York, aux États-Unis, en 1830, et dont le siège social se trouve à Salt Lake City, dans l'Utah. Elle est la 4e plus grande confession chrétienne des États-Unis, avec 6,16 millions de membres, dont 166 000 au Canada, et avec 10 226 au Québec. À l'échelle mondiale, elle revendique plus de 15 millions de membres. Elle se considère comme une religion révélée, à l'instar du judaïsme, du christianisme et de l'islam. Alors, on va regarder son origine, et j'ai pris l'information dans le site web infosect.org. Alors, plus connus sous le nom d'Église des Mormons, ils se disent être les saints des derniers jours, les chrétiens de l'âge apostolique étant les saints des premiers jours. Alors, Joseph Smith, né le 23 décembre 1805 à Sharon, aux États-Unis, est le 3e d'une famille de fermiers presbytérien de 9 enfants, qui est à l'origine de ce mouvement-là. Alors, dès l'âge de 15 ans, Joseph Smith était passionné par les questions spirituelles, était troublé par les différentes dénominations religieuses, et il découvre dans sa méditation de l'Épître de Jacques, au chapitre 1er, verset 5, et il s'empresse de demander la sagesse à Dieu. Début 1820, se retirant dans une forêt pour prier, il voit une colonne de lumière et deux personnages bien distincts, Dieu et Jésus-Christ. Le premier déclarant du second, c'est-à-dire « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoute-le. » Dieu ajoutant que toutes les églises de cette époque sont dans l'erreur. Alors, c'est 3 ans plus tard, le 21 septembre 1823, inondé de lumière dans sa chambre, que l'ange Moroni lui demande de chercher un livre caché, écrit sur des plaques d'or, de même que deux pierres, l'Urim et le Thummim, utiles pour la traduction de ces plaques, ainsi que le pectoral. Après 4 années de recherche et grâce à un messager céleste, Joseph Smith découvre une boîte contenant les objets annoncés le 22 septembre 1827 sur la colline de Cumorah, près de Manchester, dans l'État de New York. Ces plaques, recouvertes de caractères d'une langue inconnue, l'égyptien réformé, grâce à l'aide de Martin Harris et Olivier Cowdery, seront traduites en anglais avant qu'un autre messager céleste ne vienne les reprendre. Publiée en 1830, cette traduction constitue le célèbre livre des Mormons. Joseph Smith épousera sa première femme Emma Hale le 18 janvier 1827, et ce mariage étant suivi de 22 autres. C'est un homme qui aimait les femmes, d'après ce que je peux voir. Le 15 mai 1829, le futur fondateur de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours se verra conférer la prêtrise d'Araon par Jean-Baptiste, ainsi que ses amis, se faisant baptiser l'un par l'autre après l'imposition des mains du messager céleste. Et quelque temps plus tard, Joseph Smith se verra de nouveau conféré cette fois-ci par Pierre, Jacques et Jean, la prêtrise de Melchisédek. Ainsi, le 6 avril 1830, chez Peter Whitmer, à Fayette, était officiellement créée avec 6 membres l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Le premier temple mormon sera inauguré à Kirtland, dans l'Ohio, en 1836. Après de nombreuses persécutions, les membres étant obligés de fuir plusieurs fois. Joseph Smith était emprisonné à Carthage, dans l'Illinois. Il sera abattu à coups de fusil par la population le 27 juin 1844 à 39 ans. Alors, fuyant constamment, les Mormons construiront le second temple à Novoho, qui deviendra le siège de l'Église en 1846. Suite à la mort de Joseph Smith, des dissensions et des troubles éclateront dans le mouvement et Brigham Young rassemblera le gros des disciples pour les conduire cette fois-ci jusqu'à Salt Lake City le 21 juillet 1847. Depuis, cette ville est le siège mondial de leur église où un temple y sera construit en 1853. La polygamie sera proclamée officiellement le 29 août 1852. L'État de l'Utah leur sera cédé de 1859 à 1869. Ce n'est que depuis le 25 septembre 1890 que la polygamie est abolie grâce au président de l'Église de l'époque, Wilford Woodruff. Alors, on va regarder maintenant qu'est-ce qu'ils considèrent comme étant leurs livres inspirés, non 5. Alors, encore là, ça vient de infosec.org. Un des aspects de la doctrine mormone qui distingue les saints des derniers jours des autres confessions chrétiennes est la croyance en de saintes écritures complémentaires à la Bible, ce qui porte à 4 le nombre d'ouvrages considérés comme canoniques en plus de la Bible. Alors, cette Église base sa foi sur la Bible, le Livre des Mormons, Doctrine et Alliance, la Perle de Grand Prix, et aussi ce qu'ils appellent sa Confession de foi en 13 articles qui a été rédigé par Joseph Smith. Et Joseph Smith a eu des révélations successives. Alors, le Livre des Mormons complète la Bible, selon eux, et devient un autre témoignage du Christ, la plénitude de l'Évangile. Alors, j'ai mis les images des livres. Alors, il y a la Sainte Bible, le Livre des Mormons, et ils ont publié un livre dans lequel on voit les 3 autres livres qui sont, c'est que ça forme comme un gros bouquin dans lequel ils ont mis la Bible et Doctrine et Alliance, Perle de Grand Prix et aussi Confession de foi. En 13 articles rédigés par Joseph Smith et les révélations successives. Alors, on voit que, vraiment, quand tu as 5 livres que tu places sur la même autorité, à quelque part, les dérives vont sûrement arriver et sont arrivées, effectivement. En 1830, le Tout-Puissant a rétabli son Église sur la terre, suscitant des prophètes modernes et des apôtres, possédant seul la prêtrise d'Araon, et de Melchisédek, il y a un clergé laïque, ses membres étant appelés saints. Pour les Mormons, Dieu a la forme d'un homme avec un corps de chair et d'os, aimant et doux, son fils lui ressemblant tout en étant une personne distincte. Les Mormons croient à la préexistence de l'homme, à sa progression éternelle, qu'il y aura un salut général, avec cependant des grades différents dont le plus élevé est l'exaltation. Leurs premiers principes et ordonnances sont la foi au Seigneur Jésus-Christ, la repentance, le baptême pour la rémission des péchés et l'imposition des mains d'un prêtre mormon pour le don du Saint-Esprit. Alors la révélation, selon eux, est permanente et continue, la Bible n'étant pas complète selon eux. Alors Dieu, selon eux, a donné d'autres écritures, textes des révélations des temps présents donnés par les prophètes des temps modernes, et le livre des Mormons est aussi, selon eux, la parole de Dieu. Jésus aurait fait, selon eux, un séjour en Amérique pour y prêcher l'Évangile. Dans l'Évangile de Jean, au 16e verset du chapitre 10, le Seigneur, selon eux, parle des autres brebis qui sont les Américains. Alors, quand il dit « J'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie », selon eux, ils sont en train de parler du Seigneur qui aurait été en Amérique du Nord pour faire un genre d'évangélisation. On comprend bien que toute doctrine mormone puisse être modifiée, supprimée, voire complétée par une nouvelle révélation, en prenant comme exemple que les Noirs n'étaient pas admis à la prêtrise. Cet interdit fut levé par une révélation du 9 juin 1978. Et la Nouvelle Jérusalem n'est autre, bien sûr, que Salt Lake City. Voyez-vous, jusqu'en 1978, les Noirs ne pouvaient pas être dans la prêtrise. Et là, un moment donné, ils ont dû faire un calcul bancaire et se rendre compte que c'était payant. On va regarder maintenant leur organisation. Le président actuel de l'Église, Howard W. Hunter, à la fois prophète, voyant et révélateur, a assisté de deux conseillers, ainsi que de deux collègues, l'un des 12 et l'autre des 70, siège au 47 East Stout Temple à Salt Lake City. Les paroisses locales sont des branches de l'Église. Seule l'Église possède la véritable prêtrise sur Terre, qui peut être conférée à tout homme dès l'âge de 12 ans. Bien que l'ensemble de l'Église soit divisé en missions, comme par exemple les Mormons de France, qui font partie des trois missions, la mission française, franco-belge et franco-suisse, elles doivent toute obéissance à la première présidence. De par le nombre actuellement, cette Église totalise quelque 8 406 895 membres, répartis dans 20 081 paroisses, et ce, dans 146 pays. Alors, l'Europe en compte plus de 100 000, dont la moitié en Allemagne. Alors, près de 30 temples accomplissent les rites spécifiques et 46 025 missionnaires annoncent chaque jour le message mormon. C'est beaucoup, hein? Quand on pense à ça, là, qu'on les voit se promener, on les rencontre régulièrement. Quand j'étais à Cornwall, j'en rencontrais. Quand j'étais à Québec, j'en rencontrais. Quand j'étais arrivé ici à Rouyn-Noranda, j'en rencontre. Quand on parle de 46 000 missionnaires, eux autres, c'était un 2 ans. Ils partent toujours 2 par 2 et ils font 2 ans de service temps plein dans une ville à laquelle on leur assigne. Alors, pour la France, le premier culte mormon ouvrit ses portes, 7 rue du Tourmont à Paris, en octobre 1849, à l'instar de 3 missionnaires, John Taylor, Curtis Bolton et John Pack. En 1851, le livre des Mormons est traduit en français. Et en 1859, Louis Bertrand constituera officiellement l'Église. La France compte quelque 25 000 Mormons répartis dans une centaine de paroisses. Le siège de la mission française se situe au 66 rue de Romainville, dans le 19e arrondissement de Paris. Chaque grande ville de France a un centre de généalogie. On va regarder maintenant leurs activités. L'Église organise également des activités spirituelles et récréatives, soirées théâtrales, bals, et possède également une société d'amélioration mutuelle et la société généalogique. C'est en 1894 que la société généalogique de l'Utah a été fondée dans le but de rechercher les ancêtres défunts pour leur administrer le baptême mormon. Et dans les montagnes rocheuses près de Salt Lake City sont stockés les microfilms de plus de 14 milliards de fiches de tout pays. En ce qui concerne la France, d'après le journal officiel du 20 novembre 1987, un accord a été passé entre cette société et la direction des archives de France. À l'heure actuelle, Salt Lake City possède une bibliothèque contenant déjà 180 000 livres, 1 500 000 microfilms et 4 000 rouleaux de microfilms gérés par quelque 500 salariés, et 400 livres s'y ajoutent chaque mois. Alors, on va parler maintenant de leur culte. Des rencontres publiques sont organisées et des rites secrets pratiqués dans les temples sont réservés exclusivement aux membres. Son public, le culte, l'école du dimanche, les études de généalogie et la Sainte-Cène qui se font dans les salles ou des chapelles. Ils pratiquent le baptême par immersion. La Sainte-Cène est symbolique avec du pain et de l'eau et ils s'attachent une grande importance à l'imposition des mains pour le don du Saint-Esprit. Son secret, les rites du baptême pour les morts ainsi que le mariage pour l'éternité. Alors, ils ont différentes affaires. Maintenant, on va regarder le point de vue chrétien sur leur doctrine. Alors, leurs enseignements sont littéralement bourrés de contradictions et de graves erreurs et hérésies. Comme par exemple, placer le livre de Mormon sur le même plan que la Bible, et même au-dessus, il est en totale contradiction avec Apocalypse 22, 18. Autre grave erreur et hérésie, affirmer que Jésus-Christ a fait un séjour en Amérique et qu'il reviendrait, n'a aucun fondement biblique. Si le salut dépend de l'appartenance à l'Église rétablie de Joseph Smith, que deviennent les chrétiens du temps de la Réforme ou du piétisme qui ont vécu avant 1830? Mmh. Autrement dit, si tu affirmes que tu es la seule Église, qu'est-ce qui advient de tous ceux qui étaient avant toi? Mmh. Je pense que poser la question, j'ai des réponses. Autre erreur, la révélation continue. Autrement dit, si tu dis que non seulement tu as ces cinq livres-là, mais qu'il y a encore des révélations qui peuvent s'ajouter, on appelle ça de la révélation continue, ça rouvre la porte à toutes sortes de... Alors, ça rouvre la porte à n'importe quelle hérésie. Et à ce titre, on comprend bien l'affirmation de Jude 3. Autre erreur, la théologie blasphématoire qui veut que Dieu devienne un homme pour que l'homme devienne Dieu n'a rien à voir, bien entendu, avec Jean 1, verset 14. Autre erreur, les apparitions vécues par Joseph Smith et d'autres ne sont-elles pas des phénomènes spirites orchestrés par Satan, le singe de Dieu? On peut aller voir là-dessus 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 14. Et dernière, la pratique du baptême pour les morts est empruntée à certaines sectes des premiers siècles comme les Marcionites, Sérentiens et autres montanistes et ne figurait pas dans les premières révélations de leur Église ni dans leur confession de foi, pas plus que dans le livre de Mormon et dans la Perle de Grand Prix. C'est à partir d'une lettre du 19 octobre 1840 que cette pratique du baptême pour les morts, tirée de 1 Corinthiens 15, 29, voit le jour près de Novoro, dans le Mississippi. Des révélations de 1841 et 1842, ainsi que les articles 124, 127 et 128 de Doctrine et Alliance, justifient cette pratique du baptême pour sauver les ancêtres non-mormons. Autrement dit, ils enseignent que tu peux faire baptiser des gens qui sont déjà morts dans le but qu'ils soient sauvés. Alors, on peut regarder très brièvement la réputation de ces principales doctrines-là par les Saintes Écritures. Par exemple, la Bible dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui a créé l'univers, les planètes et les différents mondes, dans Ésaïe 43, et aussi Ésaïe 44, 18, mais on va prendre Ésaïe 43, 10. « Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous me croyez et que vous compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'y avait pas été formé de Dieu et après moi, il n'y en aura point. » Joseph Smith et d'autres dirigeants mormons enseignent qu'il y a de nombreux dieux. Alors, la question qu'on peut se poser, qui croyez-vous? Deuxième réfutation, la Bible enseigne que Dieu n'a pas son origine dans l'homme, qu'il a toujours été Dieu depuis toute éternité. Elle enseigne aussi qu'il n'y aura jamais d'autre Dieu que lui. Psaume 90, verset 2, « Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. » Osée, chapitre 11, verset 9, « Je n'agirai pas selon mon ardente colère. Je renonce à détruire Éphraïm, car je suis Dieu et non pas un homme. Je suis le Saint au milieu de toi et je ne viendrai pas avec... » Imaginez-vous, parler que Dieu, son origine, c'est un homme, il s'est transformé en Dieu. Pour ça. C'est, il y a des affaires là-dedans, que c'est de l'hérésie. Mais ce que j'ai trouvé le plus curieux, quand j'avais fait des recherches un petit peu là-dessus, si tu regardes la moyenne d'âge et l'instruction des témoins de Jéhovah comparée à eux, ben, ceux qui accrochent le plus aux Mormons, c'est des gens très instruits et des universitaires. Ça, c'est incompréhensible. Ésaïe 44, verset 6, « Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son Rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier, je suis le dernier, et hors de moi, il n'y a point de Dieu. » Alors, le mormonisme enseigne qu'autrefois, Dieu était un homme avant de devenir Dieu. Le mormonisme enseigne qu'il est possible aux hommes de devenir un jour des dieux. Alors, bien entendu, on pose encore une fois la question, qui croyez-vous? Troisième réfutation, la Bible enseigne que Jésus-Christ a toujours été Dieu. Alors, Michée 5, verset 2, « Et toi, Bethléem Ephrata, petite d'entre les milliers de Judas, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. » Jean, chapitre 1, verset 1, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Jean 8, verset 58, Jésus leur dit, « en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. » Alors, eux, les Mormons, enseignent qu'à une époque, Jésus-Christ n'était pas Dieu. Alors, bien entendu, encore une fois, qui on croit? Quatrième, Deutéronome 18, verset 20 à 22, nous dit que pour qu'un prophète soit un vrai prophète, il faut que ses prophéties se réalisent à 100%. Autrement, c'est un faux prophète. Alors, on va lire le passage. « Mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je n'aurais point commandé de dire ou qui parlera au nom d'autre Dieu, ce prophète-là sera puni de mort. » Peut-être diras-tu dans ton cœur, « Comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite, quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite, n'aie pas peur de lui. » Alors, de nombreuses prophéties de Joseph Smith ne se sont jamais réalisées. Si vous vous référez à la Bible, Joseph Smith était-il un vrai ou un faux prophète? Alors, je n'ai pas donné toute la liste, parce que dans les sites web, ils donnent la description de ce qu'il a dit, quand il l'a dit, qu'est-ce qu'il a dit. Mais il a fait plusieurs fausses prophéties. Cinquièmement, la Bible dit que le Christ a été conçu du Saint-Esprit. Matthieu 1, verset 20, « Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. » Luc 1, 35, « L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Alors l'enfant Jésus ne fut pas conçu du Saint-Esprit selon Brigham Young, qui a dit ça dans les Journal of Discourses. Alors est-il possible qu'un vrai prophète de Dieu contredise la parole de Dieu? Sixièmement, la Bible enseigne que Dieu créa Adam et lui donna vie. Genèse chapitre 2, verset 7, « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. » 1 Timothée chapitre 2, verset 13, « Car Adam était formé le premier, Ève ensuite. » Brigham Young enseignait qu'Adam est notre Père et notre Dieu, et le seul Dieu à qui nous ayons affaire. Hey, c'est épouvantable de dire des affaires pareilles. Dire qu'Adam est Dieu, puis c'est juste à lui que tu as affaire. C'est pas des petites affaires. Moi, je me souviens d'avoir déjà parlé avec une personne à Sherbrooke qui me disait, « Ah, les Mormons, les chrétiens. » Je regrette, là, mais si tu étudies moindrement leurs affirmations, c'est pas des chrétiens, définitivement pas. Septièmement, la Bible nous dit que l'étude des généalogies est vaine et inutile. Tite, chapitre 3, verset 9, « Mais évite les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes, relatives à la loi, car ils sont inutiles et vaines. 1 Timothée chapitre 1, verset 4. « Et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin, qui produisent des discussions, plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. » Les Mormons en font un emploi intensif dans leur système d'œuvres, de baptême pour les morts, etc. Alors, encore une fois, qui croyez-vous? Huitièmement, la Bible, l'histoire, l'Église et l'histoire jettent un doute très prononcé sur le mormonisme qui prétend recevoir des révélations complémentaires. Apocalypse 22, versets 18 et 19, « Je déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. » Galates 1, 8, « Quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. » Encore une fois, qui on croit? Neuvièmement, la Bible enseigne que l'enfer est éternel. Matthieu 25, verset 46, « Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. » Apocalypse 20, verset 15, « Quiconque ne fut pas trouvé, écrit dans le livre de vie, fut jeté dans l'étang de feu. » Le mormonisme enseigne que l'enfer n'est pas une punition éternelle pour tout homme perdu. Alors, encore une fois, on se doit choisir entre leur enseignement et ce que disent les Écritures. Dixièmement, la Bible enseigne que David et Paul, tous deux meurtriers, furent pardonnés et que le sang de son Fils Jésus-Christ nous lave de tout péché. Voici ce qui fut répondu à David après qu'il ait tué Uri et pris sa femme Bathsheba et qu'il ait avoué son crime. 2 Samuel 12, verset 13, « David dit à Nathan, « J'ai péché contre l'Éternel. » Et Nathan dit à David, « L'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. » Acte 9, verset 1, « Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez les souverains sacrificateurs. » Acte 22, verset 4, « J'ai persécuté à mort cette doctrine, liant et mettant en prison hommes et femmes. » 1 Jean 1, verset 7, « Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » Joseph Smith enseigne dans sa doctrine qu'un meurtre est un péché qui ne peut être pardonné. Alors, encore une fois, qui on croit, les Écritures ou l'enseignement des mormons? Onzièmement, la Bible enseigne que tous les hommes sont pécheurs, qu'ils sont perdus et qu'ils ont besoin du salut. Elle enseigne que seuls ceux qui ont personnellement reçu Christ seront sauvés. Jean 6, 40, « La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Romains 3, 23, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Jean 11, versets 25 et 26, « Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela? Acte 16, verset 31, Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Alors, le mormonisme enseigne que la résurrection est le salut et que tous les hommes ressuscitent, alors tous les hommes, selon eux, seraient sauvés. Ils appellent ce salut, salut général. Alors, qui croyez-vous encore une fois? Douzième, la Bible dit que le salut ne s'obtient que par la foi en Jésus-Christ seulement. Romains 3, 10, selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Romains 10, versets 2 et 3, je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence, ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Jean 6, verset 47, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Hébreux 7, verset 25, est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Le mormonisme, quant à lui, enseigne que l'homme doit se rendre digne de son salut individuel ou personnel en accomplissant de bonnes œuvres. Or, une fois, qui croyez-vous, la Bible ou leur enseignement? Treizièmement, la Bible enseigne que nous sommes pécheurs et nous devons passer par la nouvelle naissance pour devenir enfants de Dieu et recevoir Christ. Jean 3, verset 3, Jésus lui dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Jean 1, verset 12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Le mormonisme, quant à lui, enseigne que nous sommes tous enfants de Dieu. Alors, encore une fois, qui croyons-nous? Quatorzièmement, la Bible dit que les vrais chrétiens savent qu'ils sont sauvés dès maintenant et qu'ils sont sûrs d'aller au ciel avec Jésus pour l'éternité. 1 Jean, chapitre 5, versets 12 et 13, « Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Le mormonisme, quant à lui, enseigne que personne ne peut être sûr d'aller au ciel. Encore une fois, qui croyons-nous? Quinzièmement, la Bible nous met en garde contre les faux Christ et les faux prophètes. Romains chapitre 10, versets 9 et 10. « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. » Matthieu 7, verset 15, « Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. » Alors, le mormonisme enseigne un Dieu et un Christ différents de ceux de la Bible et en une toute autre manière d'obtenir le salut. Toute leur doctrine repose sur les écrits de Joseph Smith, prophète discrédité et non prophète de Dieu. Ferez-vous confiance au Dieu mormon ou au Dieu de la Bible? Seizièmement, la Bible enseigne qu'on trouve un salut instantanément et complet en Jésus-Christ. Romains 10, verset 13, « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Les mormons ne croient pas à ce salut si simple. Encore une fois, qui croyez-vous? Comme application, j'ai mis « Attachons-nous encore plus fortement » aux Saintes Écritures et à elle seulement, par sa grâce et pour sa gloire. Amen.